Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Deus qui nos redemptionis nostre omnia expectatione laetificas. Ô Dieu, vous nous réjouissez chaque année par l'attente de notre rédemption. Ces premiers mots de l'oraison de cette vigile de la Nativité ne nous laissent aucun doute sur le sens véritable du mystère de Noël que nous allons fêter ce soir. Tout est dit par ce simple mot, redemptionis, notre rédemption. Et le texte de l'oraison insiste fortement sur ce mot, puisqu'il attribue à notre Seigneur, dans ce qui suit, ce titre même de rédempteur. Unigenitum tuum quem redemptorem leti suscipimus. Votre Fils unique, que nous recevons dans la joie comme rédempteur. Rédemption, rédempteur. Or, l'oraison, ou la collecte d'une messe, vous le savez, contient la grâce propre que l'Église veut nous faire demander à Dieu par le ministère du prêtre au Saint-Autel pour telle fête liturgique. La collecte est un peu comme l'âme, le résumé des prières spéciales que nous adressons à Dieu au cours d'une fête. Que se cache-t-il derrière ce mot de rédemption? Que signifie-t-il? Selon l'étymologie, il vient du verbe latin emere qui signifie acheter. Une rédemption, la rédemption, c'est donc un rachat. Oui, mais rachat de quoi? Rachat d'une double obligation, nous répond saint Thomas, d'un double esclavage que l'homme a contracté à cause du péché. Premièrement, rachat de l'esclavage du péché lui-même. Il s'agit ici principalement du péché originel par lequel toute âme qui vient au monde naît séparée de Dieu, coupée de Dieu, ennemie de Dieu, et aussi du péché mortel, ce péché par lequel l'âme se détourne de Dieu pour s'attacher à la créature au point de chasser Dieu de son âme. Et le péché qui chasse de Dieu de l'âme est vraiment un esclavage. L'esclavage des passions qui se sont rebellées au point de chasser Dieu, de le mettre dehors, et contre lesquelles la volonté ne pourra plus faire grand-chose pour lutter contre le péché. Esclavage du diable, à qui les portes de l'âme ont été ouvertes. Le diable aura plus de facilité à inciter au péché. Esclavage enfin de l'amour propre. On s'est préféré à Dieu, on l'a mis dehors. Mais voyez-vous, même dans le péché véniel, il y a un certain esclavage. Si le péché véniel n'est pas combattu, s'il n'est pas réparé, il laisse des traces dans l'âme. Il laisse des attaches au péché qui conduisent petit à petit vers le péché mortel. Deuxièmement, rachat de la peine qui a été contractée envers la justice divine à cause du péché. L'attache désordonnée aux créatures a enfreint l'ordre de la justice divine. Il faut en échange une compensation, une peine, une réparation. Celui qui a accordé à sa volonté plus qu'il ne devait, devra souffrir de son plein gré ou de son mauvais gré une peine qui contrariera cette volonté. Et pour une faute grave qui a offensé le Dieu infini, ce sera l'enfer. Il fallait donc que nous soyons rachetés, que nous soyons sauvés de ce double esclavage. Il nous fallait un rédempteur, il nous fallait un sauveur. Et c'est notre Seigneur qui est venu en quelque sorte payer la rançon, qui nous a libérés du péché et de la peine due au péché. Par sa passion, il a satisfait de façon adéquate et même surabondante au péché et à la peine due au péché. Dieu le Père voulait que fût fournie une satisfaction adéquate au péché. Adéquate, c'est-à-dire qui soit égal, au moins égale à l'offense que le péché avait causée. Et notre Seigneur n'a pas fait les choses à moitié. Pour que Dieu nous soit à nouveau propice, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, sa vie même. Et ce don total de lui-même a ravi le cœur de Dieu. Que l'on étudie l'intensité et l'acuité des souffrances endurées et offertes, que l'on considère aussi l'ardeur de la charité qui brûlait dans le cœur de notre Seigneur et qui ont donné toute leur valeur à ces souffrances. Que l'on regarde enfin la dignité de la vie qui a été offerte, la vie d'un Dieu même. Voilà pourquoi cette satisfaction est surabondante. Quand on met sur une balance, d'un côté, les péchés de tous les hommes, depuis la nuit des âges jusqu'à la consommation des siècles, et sur l'autre côté de la balance, le sacrifice de notre Seigneur, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. Le sacrifice de notre Seigneur vaut pour tous les péchés qui seront commis par tous les hommes et bien au-delà, bien au-delà. Quittons le calvaire pour revenir au mystère de la nativité. Nous sommes à la veille de Noël. Mais justement, c'est parce qu'il devait souffrir que notre Seigneur s'est incarné. Là est la raison profonde de son incarnation, de sa venue dans la crèche. D'où cette insistance de l'oraison sur son rôle de rédempteur, qui nous a forcés à diriger nos regards vers le mystère de la croix. Car ce serait une grave erreur, voyez-vous, de venir prier à la crèche sans avoir en ligne de mire, en vue à l'horizon, le mystère de la croix. Dans la paille de la crèche est caché le bois de la croix. Et ce serait fausser le mystère de Noël, le mystère de ces fêtes de la Nativité, que de ne pas penser à la croix. Cet enfant qui naîtra ce soir est un crucifié. Il est notre Sauveur qui va mourir pour nous. Il est tellement crucifié dans son cœur qu'il l'est depuis sa conception dans le sein de la Bienheureuse Vierge Marie, au jour de l'Annonciation. La croix est dans son cœur depuis ce jour-là. Et en lui, rien n'est compréhensible sans la croix. S'il s'est incarné, c'est pour satisfaire pour nos péchés. Pouvait-il faire autrement ? Dieu pouvait-il faire autrement ? Choisir un autre plan ? Oui, Dieu pouvait faire autrement. Dieu aurait pu se contenter de pardonner le péché sans rien demander en retour. Un coup d'éponge. Fini. J'oublie tout. Dieu aurait pu aussi se contenter d'une satisfaction imparfaite offerte par le genre humain ou par quelque homme éminent. Satisfaction imparfaite nécessairement parce qu'offerte par une créature finie et dans toute faute grave, s'il y a un côté fini en tant qu'attache à des créatures, il y a un côté infini en tant qu'on se détourne d'un Dieu qui par essence est infini dans sa nature. Donc cette satisfaction humaine n'aurait pas pu être adéquate à la faute. Mais Dieu aurait pu s'en contenter. Cependant, il n'a voulu ni de la première solution, ni de la seconde. Il n'a pas voulu pardonner sans rien demander en retour. Car non seulement nous n'aurions pas pris part à notre rédemption, notre Seigneur est l'un des nôtres, il a pris la nature humaine, mais encore, le péché eût paru peu de choses. Il aurait paru chose tout à fait insignifiante à nos yeux, puisque Dieu n'aurait rien demandé en retour. Il n'a pas voulu non plus d'une satisfaction imparfaite, car cette satisfaction aurait paru venir tout entière de l'homme, bien sûr, à supposer l'acceptation divine. Mais enfin, ce seraient des hommes qui l'auraient offerte. Et aussi parce que cette satisfaction n'aurait pas été adéquate à l'offense. Et là encore, nous aurions tenu peu de compte du péché, qui est avant tout une offense infinie à Dieu. Car dans le péché, c'est la créature, cet être de boue et de rien, qui se révolte contre son Créateur, être infini, tout d'amour, qui n'a donné que du bien, qui n'a fait que du bien à cette créature. Et cet être chétif, cet être infirme, ose dire non, non serviam, je ne servirai pas, je suis l'égal de Dieu, je ferai ma volonté. C'est à cause de cet orgueil que Dieu devait s'incarner et mourir sur la croix, à cause de cet orgueil du péché. Et si l'on n'a pas cela à l'esprit et au cœur, on passe complètement à côté du mystère de Noël. On ne comprend rien. On tombe dans le Noël laïque, païen, qui nous est servi aujourd'hui par le monde moderne. Non, Noël, ce n'est pas cela. Alors, comment nous approcherons-nous ce soir de notre Rédempteur, de notre Sauveur ? Tout d'abord, avec de grands sentiments d'humilité, nous sommes de pauvres pécheurs. Nous avons un besoin absolu d'être sauvés, d'être sanctifiés, d'être rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Nous avons besoin de la grâce qui vient de lui, qui passe par lui, qui passe par ses blessures pour être sauvés. Nous sommes de pauvres pécheurs. Grande humilité, grande reconnaissance aussi. Le salut que notre Seigneur nous a apporté est d'un si grand prix pour nous. Nous en avons un besoin absolu. Il est nécessaire de passer par notre Seigneur pour être sauvés. Un besoin absolu aussi de passer par, en quelque sorte, ces prolongations de son incarnation rédemptrice que sont les sacrements. Besoin absolu du baptême par lequel nous avons été lavés du péché originel. Merci mon Dieu. Merci aussi mon Dieu pour le sacrement de la confession, sacrement des plus nécessaires pour lutter contre le péché et duquel il faut faire un très grand cas. Merci encore mon Dieu pour le sacrement de la messe, pour la communion, par laquelle nous recevons un feu divin qui vient pénétrer notre âme pour nous transformer en Dieu. Oui, profonde humilité et profonde reconnaissance qui doit se traduire par des actes. L'incarnation rédemptrice est un mystère auquel nous devons prendre part. Nous avons été marqués du signe de la croix au jour de notre baptême. Et cette croix, nous devons la porter en toute occasion, dans toutes nos occupations, dans chacun de nos devoirs d'État. Pour cela, n'hésitons pas à user et même à abuser, dans un certain sens, des moyens donnés par notre Seigneur pour participer à la rédemption que sont les sacrements. La collecte nous invitait à nous réjouir à deux reprises de la venue de notre Rédempteur. Et c'est là la joie de Noël, c'est celle-là. La joie que notre Rédempteur vienne enfin nous sauver, nous racheter de nos péchés. C'est cela la vraie joie de Noël. Pour en bénéficier, profitons vraiment des trésors de la rédemption que notre Seigneur nous apporte aujourd'hui. C'est ainsi, et c'est la dernière demande de notre raison, que nous le verrons venir dans la paix au soir de notre vie pour nous juger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.